I'm turning today to the Gospel of John, chapter 3 and verse 22.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 22. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus s'en alla avec ses disciples sur le territoire de Judée, et il y demeura avec eux et y baptisait. Et nous en arrivons à cette deuxième partie du chapitre 3 dans notre étude de l'Évangile de Jean. Et notre sujet ce matin, c'est le prédécesseur qui s'abaisse devant Christ, où le titre aurait pu être « La repentance » dans l'Évangile de Jean, parce que ce thème de la repentance et de la foi est là dans l'Évangile de Jean. Et nous devons expliquer cela. Et c'est là notre thème, le prédécesseur s'abaisse devant Christ. Et d'abord, ce matin, j'aimerais montrer l'esprit exemplaire de Jean-Baptiste. Il met devant nous un exemple, un modèle de modestie, d'humilité. Nous savons qu'il était un homme puissant et un homme particulier dans son apparence. Les gens s'imaginaient qu'il ressemblait à Élie. Et cependant, plein d'humilité dans son attitude envers Christ, il était prêt à être devancé par Christ et que son ministère s'éclipse devant le ministère de Christ. Et c'est là le début de notre étude. Après cela, Jésus s'en alla avec ses disciples. Au moins 5 de ses disciples, les 5 qui ont été nommés comme étant avec lui au chapitre 1, plus sans aucun doute, Jacques, qui était avec Jean. Donc au moins 5 ou probablement 6 disciples. Et ils vont dans le territoire de Judée. Probablement ceci s'est passé dans l'histoire entre mai et décembre 27 après Jésus-Christ. Jésus s'en alla avec ses disciples, peut-être pendant 6 mois, et il demeurait là et il baptisait. Il ne baptisait pas lui-même. Le chapitre suivant, verset 4, nous dit cela, Jean, chapitre 4, que c'était les disciples de Christ qui baptisaient et non pas Jésus lui-même. Jean, chapitre 4, verset 2. Peut-être qu'il était nécessaire que Jésus fasse cela pour démontrer qu'il était plus grand que Jean baptisé. Mais Christ a donné cette tâche à ses disciples. D'autres suggèrent que les disciples n'étaient pas prêtres, sacrificateurs, et Jésus non plus dans ce sens de l'Ancien Testament. Et ceci montre que le baptême était un symbole qui n'était pas en relation avec le rite juif du baptême. Et ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, que à la fois Jean et le Seigneur Jésus-Christ étaient là, qu'ils baptisaient des Israélites. Et ceci ne s'est jamais passé auparavant. Les Israélites n'étaient pas baptisés dans les purifications de l'Ancien Testament parce que ceci était pour les non-juifs qui devenaient prosélytes. Ce n'était pas pour les juifs, pour les Israélites. Mais ici, Jean, avec son baptême de repentance et le Seigneur Jésus-Christ également, continue ce baptême, ce symbole de la repentance. Et il baptise des Israélites, des juifs, des enfants d'Abraham, et même certains des pharisiens ont été baptisés par Jean. Et Jean a dit qu'ils étaient hypocrites, il a dénoncé leur attitude. Il était si populaire, si connu, que même les pharisiens sont venus à lui. Même s'ils n'aimaient pas Jean, ils gardaient les lois cérémonielles méticuleusement. Et en particulier, les disciples de Christ qui ne sont pas sacrificateurs ou prêtres, qu'ils baptisent les enfants d'Israël, ceci était quelque chose de nouveau pour eux. Et au verset 22, nous lisons cela, au verset 23, « Et Jean baptisait aussi à Énon, près de Salim. » Nous ne savons pas exactement où était Énon ou Salim, mais clairement, c'était un peu plus au nord que là où Christ baptisait. Et les gens venaient encore à lui, au verset 23. Mais, alors que nous continuons la lecture, nous voyons clairement que les foules sont venues à Christ et ont laissé Jean plutôt de côté. Alors que le récit continue, Jean n'avait pas encore été mis en prison au verset 24 et j'en arrive au verset 25. Or, il y eut une dispute entre les disciples de Jean et les Juifs, touchant la purification. Vous savez que dans l'évangile de Jean, presque toujours, quand Jean, l'apôtre Jean, utilise ce terme « les Juifs », il parle des chefs des Juifs hostiles contre Christ. Ce n'est pas quelque chose d'universel dans tous les évangiles, mais clairement dans l'évangile de Jean. Jean utilise ce terme « les Juifs » pour parler spécifiquement des scribes, des pharisiens, des chefs des Juifs et de leurs officiers, ceux qui sont hostiles contre Christ. Et ainsi, nous pouvons lire ceci dans le verset 25. Or, il y eut une dispute entre les disciples de Jean, certains des disciples de Jean, et ses chefs juifs, ou ceux qui les représentent, touchant la purification. Et c'est là ce que nous attendons d'eux, qu'ils commencent à protester. Vous baptisez les Juifs, les Israélites? Ceci était nouveau pour eux, ainsi il y a une dispute. Mais ils utilisent cette dispute, ces chefs juifs qui sont contre Christ, utilisent cette dispute pour mettre un fossé plutôt entre les disciples de Jean et les disciples de Christ. C'est là ce qu'ils essayent de faire d'une manière évidente. Au verset 26, nous lisons « Et ils, c'est-à-dire les disciples de Jean qui ont été impliqués dans cette dispute, et ils vinrent à Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, il se réfère à Christ ici, il se réfère à comment Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Ainsi, les disciples de Jean, ils étaient influencés par ces chefs juifs, ceux qui les représentaient, qui ont remis en question le baptême. Et en particulier, ils étaient en souci du fait que Christ attirait plus de foule. Qu'est-ce que Jean voulait dire? Qu'il était le Messie? Pourquoi est-ce que alors il n'avait pas cette puissance messianique pour diriger la nation? Pourquoi est-ce que il n'a pas simplement pris les foules vers lui et les a attirées? Mais Christ avait un grand avantage, si l'on pouvait dire ceci, non seulement est baptisé par ses disciples, mais également il guérissait, il accomplissait ses grands miracles. Ainsi, ce n'est pas surprenant que les foules aillent vers Jésus plutôt. Mais ainsi, les disciples de Jean sont surpris et ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» Et ils demandent ceci à Jean-Baptiste. « Tu as dit qu'il était le Messie, mais il fait exactement ce que nous faisons. » Et les foules vont vers lui plutôt que de continuer à venir à nous. Et voici la réponse parfaite de Jean au verset 27. Jean répondit « Personne ne peut rien s'attribuer si cela ne lui a été donné du ciel. La grande foule va vers Christ. Beaucoup viennent encore vers Jean, mais la plupart vont vers Christ. » Il y a également ces miracles, ces merveilles, et chacun parle de Jésus de Nazareth. « Parce que ceci lui a été donné du ciel, dit Jean, et au verset 28, « Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, vous avez entendu que j'ai dit cela, je ne suis pas Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Et ensuite, il donne cette illustration merveilleuse au verset 29, « Celui qui a l'épouse et l'époux. » Qu'est-ce que cela signifie? L'épouse, c'est d'une manière évidente, le peuple, la foule, l'attention de la foule, les gens que Christ attire. Il est l'époux, Christ est l'époux. L'épouse représente la foule, mais l'ami de l'époux, le témoin qui est présent et qui l'écoute, c'est là l'illustration, c'est que l'ami de l'époux Il organise le mariage, tout sera arrangé, organisé de la bonne manière. Et le repas de mariage, les noces de mariage, le culte de mariage, et tout sera préparé par l'ami de l'époux. Ensuite, l'époux viendra, tout sera prêt pour lui, et lui viendra dans la ville juste au bon moment pour les noces. Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il viendra plus tard? Est-ce qu'il va changer d'avis? Oh, ceci serait terrible. Il y avait toujours une certaine anxiété dans l'attente de l'époux, et l'ami de l'époux préparait tout pour son arrivée. Et quand l'époux arrivait, qu'il entrait dans la ville, dans le village, ô combien l'ami de l'époux est heureux. Il ne dit pas « Oh non, je suis triste, j'ai tout organisé, et maintenant que l'époux est arrivé, toute l'attention va sur lui, et moi je ne suis plus rien. » Bien sûr, il n'est pas jaloux, parce que c'est un jour important pour lui, c'est le jour de l'époux et de l'épouse. Ainsi, l'ami de l'époux est heureux, et tout se passe comme il a prévu, il est heureux pour son ami, il a tout préparé. Ainsi, Jean utilise cette illustration. Je suis simplement l'ami de l'époux. J'ai annoncé sa venue, la venue de l'époux, de l'épouse. J'ai tout arrangé, organisé. Maintenant, l'époux arrive et je suis heureux, plein de joie. L'ami de l'époux qui est présent et qui l'écoute est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. Ensuite, ces paroles remarquables. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Au verset 29 et au verset 30, c'est là un message pour nous. L'ami de l'époux se réjouit grandement d'entendre la voix de l'époux. Il doit croître et je dois diminuer. Est-ce ainsi dans notre vie, chers amis? Nous venons au tabernacle pour adorer le Seigneur. Non pas pour rencontrer nos amis, nous allons faire cela également et nous allons apprécier la communion fraternelle, les frères et sœurs dans le Seigneur. Mais nous ne venons pas pour cela principalement, mais c'est pour entendre la voix de Christ, pour l'entendre lui parler par sa parole. C'est pour venir le matin, pour venir le soir, pour la réunion d'évangélisation également. Et vous ressentez que la voix de l'époux est prêchée, que les gens entendent Christ, que l'appel de l'évangile est prêché, que le Saint-Esprit est à l'œuvre, que les cœurs sont ouverts et touchés, d'entendre la voix de l'époux dans la parole, dans le ministère de la parole, dans le message de la parole de Dieu. C'est là notre grand désir, notre aspiration jour après jour, dans notre méditation personnelle, dans votre lecture de la parole de Dieu, vous entendez d'une certaine manière la voix de Dieu et vous êtes touché et affecté par sa parole et instruit et influencé. Ainsi, nous sommes comme Jean-Baptiste. Nous apprenons qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le jour de l'époux. Nous voulons simplement entendre sa voix. Nous avons tout organisé pour sa venue, de même pour le prédicateur. Si vous aspirez à avoir un ministère pour le Seigneur Jésus-Christ, vous ne voulez pas être ce type de prédicateur qui se vante, qui se met en avant, qui veut impressionner les gens pour que tout le monde pense du bien de lui, qu'il ait une bonne réputation pour une chose ou une autre. Mais votre grand fardeau, c'est d'être clair, de persuader, de convaincre les gens de venir à Christ, de les appeler, de les inviter à Christ et d'encourager les enfants de Dieu pour que sa voix soit entendue, soit prééminente. Et c'est ainsi que nous devons vivre en tant que chrétiens, de l'entendre jour après jour. C'est là la chose importante pour nous. Et nous voyons ceci dans ce texte, que l'ami de l'époux qui est présent et qu'il écoute et ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Pensez un peu à cela quand vous planifiez votre temps. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, cette semaine? Comment est-ce que je vais organiser mes moments de loisirs? Comment est-ce que je vais organiser mon temps? Il faut qu'il croisse il faut qu'il ait le plus de mon temps possible. Et je dois diminuer. Non pas rêver pour moi-même, tout ce que je vais faire pour moi-même, ces choses dans lesquelles je vais me réjouir, mes plaisirs, ce que je vais acheter. Non, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans mes conversations également, il faut qu'il croisse et que je diminue. Je ne veux pas parler de moi-même. Si l'occasion arrive, oh, nous allons transformer la conversation pour parler des choses de Christ, des choses de Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Regardez ces paroles extraordinaires au verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Je vais en arriver là, mais ce qui suit est une déclaration extraordinaire. Celui qui vient de la terre, c'est-à-dire Jean-Baptiste qui se réfère à lui-même, il fait ce contraste entre lui et Christ. Celui qui vient de la terre est de la terre et parle de la terre. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. En grec, vient de la terre est là trois fois. En grec, c'est celui qui vient de la terre, il est de la terre et de la terre, il parle. Notre traduction a un peu raccourci ceci, mais en grec, il y a trois fois ce terme de la terre et ceci est puissant. Jean est de la terre, Christ est du ciel. Jean vient de la terre, il est formé de choses terrestres, il est limité en tant que personne, il est fini, limité. Et d'une manière naturelle, il parle comme quelqu'un de la terre. Il est limité par la chair, par le temps, et il a besoin de l'inspiration de l'esprit pour savoir que Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Et il a l'esprit de Dieu, Dieu l'a inspiré en tant que prophète pour parler de Christ. Mais en d'autres aspects, il n'est qu'un homme. Il peut aspirer à être plein de connaissances autant que possible, mais en tant qu'homme, il est terrestre. Il y a ce contraste ici. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre et parle de la terre. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Et Christ est au-dessus de tous. Il est au-dessus des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et même jusqu'à Moïse. Il est au-dessus des patriarches, au-dessus de Moïse, qui est tellement aimé des Juifs. Mais Christ est au-dessus de tous. Il est au-delà des prophètes, non seulement au-dessus de Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, mais également de tous les autres et tous les grands prophètes qui ont écrit Ésaïe, Jérémie, qui ont été inspirés simplement pour cette partie de l'Écriture et pas plus. Mais Christ est Dieu qui connaît toutes choses. Il est au-dessus de l'Église typique d'Israël et de l'Église véritable. Il est au-dessus du temps et il va conclure le temps de la terre. Il est au-dessus de Satan, du péché. Un jour, il va juger Satan pour être détruit éternellement. Il est au-dessus du péché. Il l'a conquis, il a souffert et il est mort pour les péchés de tous ses enfants. Il a vaincu le péché. Et il va juger les perdus. Christ vient du ciel et il est au-dessus de tous. Et au verset 32, à nouveau, ce toucher extraordinaire. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Jean-Baptiste dit, il est venu du ciel. Il a vécu pour toujours au ciel avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est la connaissance éternelle, cette conversation jour après jour au ciel. Il vient sur cette terre, il parle de ce qu'il a vu et entendu. C'est une illustration. Il s'imagine la demeure éternelle de Dieu comme étant une maison terrestre. Et Christ, avec le Père et le Saint-Esprit, a été là pour toujours. Et quand il vient à nous, il nous parle de tout ce qu'il a vu et entendu. Tout ce qu'il connaît, il est Dieu. Mais c'est là la manière par laquelle Jean l'exprime quand il parle à ses disciples. Moi, je suis de la terre, mais lui, il a entendu tous les desseins du ciel. » Et ensuite, le sujet change un peu au milieu du verset 32. « Mais personne ne reçoit son témoignage. » Et ceci est très important. Personne ne reçoit son témoignage. C'est une exagération, bien sûr, parce que le verset suivant dit « Celui qui a reçu son témoignage. » Comme Jean-Baptiste, comme les premiers disciples, comme les premiers croyants. Ainsi, vous lisez le verset 32 comme signifiant que peu de personnes ont reçu son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable, et peu de gens ont reçu son témoignage. Qu'en est-il des foules qui ont été baptisées ? Des foules entières sont venues vers Jean-Baptiste, des dizaines de milliers de personnes probablement, et il les a baptisées. Et ensuite ils sont allés vers Christ, et Christ les a instruit ses disciples pour qu'ils les baptisent. Et il semble, à première vue, que la majorité des gens de la campagne, en Judée, en Galilée, ont été baptisés. Et cependant, il est dit ici que c'était comme si personne ne l'avait reçu. Christ est venu du ciel et il n'a pas été reçu. Les gens ne l'ont pas cru. N'est-ce pas une contradiction ? Comment est-ce que nous expliquons cela ? Ceci montre clairement qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont cru dans une certaine mesure, mais ils n'ont pas cru profondément. Ils n'ont pas cru d'une manière soutenue, constante, maintenue. C'était simplement un moment temporaire. Ils n'ont pas réalisé la profondeur de ceci. Ils n'ont pas compris que Christ était du ciel, qu'il était le Messie attendu. Beaucoup d'entre eux attendaient le Messie, ou ils pensaient que toute la nation était probablement le Messie. Ils étaient confus dans leurs idées. Ils s'attendaient à un Messie politique qui peut-être coexistait avec la nation. La nation a souffert. La nation allait délivrer d'autres nations. Non, Christ est venu et ils n'ont pas réalisé cela. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu. Ainsi, ils n'ont pas réellement cru que Dieu était parmi eux. Et ils n'ont pas été humiliés dans leur cœur, et ils n'ont pas ressenti profondément leur besoin d'être pardonnés, leur dépendance entière de Christ pour la vie spirituelle, pour la vie éternelle. Aucune de ces choses était là profondément à leur esprit. Ainsi, ils ont été baptisés, mais sans une repentance réelle. Le symbole du baptême, la nation qui avait besoin d'être purifiée, ils n'ont pas réalisé cela dans leur cœur. Ainsi, dans ces versets ici, nous lisons que personne, au verset 32, ne reçoit son témoignage. Au verset 33, celui qui a reçu son témoignage, cette minorité de personnes, a scellé que Dieu est véritable. C'est une autre illustration de la part de Jean-Baptiste, ce sont ses paroles. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable. Comme vous le faites sur un document important, vous l'authentifiez. Peut-être que vous êtes un roi et que vous donnez un décret et vous mettez un sceau pour sceller ce document qui est authentique, officiel, qui vient du roi. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable en dépendant de Christ, en dépendant de lui. Il a scellé que Dieu est véritable, qu'il a gardé sa parole, ses promesses, qu'il a envoyé le Messie. Et ensuite au verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. » Ce verset est souvent mal compris, mal transmis dans les traductions modernes. Ainsi, j'aimerais l'expliquer. Ces traductions modernes disent souvent quelque chose qui ressemble à ceci. Elles disent « Dieu lui donne l'esprit sans limite ». Et c'est triste que d'avoir ces traductions. Ce n'est pas entièrement faux, mais c'est faux. Parce que ce n'est pas ce que Jean veut dire. Quand vous voyez ces paroles qui parlent de Christ en grec, parce que Dieu ne lui donne pas. Notre traduction a suivi le grec d'une manière plus méticuleuse. Parce que Dieu ne donne pas. Ce terme « ne donne pas » est important. C'est faux que de traduire que Dieu lui a donné l'esprit sans limite. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous suivez ceci? C'est très important. Écoutez, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. En d'autres termes, Dieu, le Père, n'œuvre pas en Christ le Fils comme il œuvre en un prophète. Les prophètes ont reçu une mesure, une proportion de l'esprit. Ils ont été inspirés pour donner uniquement cette partie de la parole de Dieu qui est écrite par eux. Ils n'étaient pas entièrement infaillibles. Ils avaient simplement une mesure de l'esprit, une mesure d'inspiration. Ici, nous parlons de Christ et Jean a dit « Moi, je suis de la terre et lui vient d'en haut. Moi, je suis limité et je ne suis pas parfait. Lui, il est sans limite, il est parfait. » Maintenant, il dit « Dieu ne donne pas l'esprit par mesure à Christ. Il a tout l'esprit. Le Fils est distinct du Saint-Esprit, mais ils sont un. Ils sont entièrement en plein accord, en harmonie, œuvrent ensemble, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, cette union de la Trinité. Dieu ne lui donne pas une mesure de l'Esprit. Il a déjà l'Esprit entièrement. Il est rempli de l'Esprit. Et quand il est venu sur cette terre, qu'il a marché sur cette terre en tant qu'homme, avec toutes les limites de ce corps humain, l'Esprit est descendu avec lui pour l'assister, pour lui donner la puissance, la capacité. Dieu le Père ne donne pas une portion de l'Esprit à Christ. Il a déjà tout l'Esprit. Et ces traductions modernes ont perdu la signification de ce verset et ne suivent pas le contexte. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient de la terre parle de la terre. J'aimerais relire ce verset pour souligner les choses importantes. Verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure, parce que lui, il est au-dessus des prophètes. » Les traductions ont perdu le sens de ce verset. Vous vous dites qu'elles auraient dû s'arrêter et se dire « Oh, pourquoi les traductions anciennes essayent de mettre ce négatif dans ce verset ?» Et c'est là quelque chose qui est important dans le contexte des arguments de Jean-Baptiste. Même des grands linguistes, et par exemple la version ESV qui a été vendue pendant des années comme étant une nouvelle traduction, ce n'est pas une nouvelle traduction. Ce qui s'est passé, c'est que une traduction appelée RSV à la fin des années 1940-50 qui a été faite par des Américains est une bonne traduction en anglais, mais les traducteurs de la RSV étaient principalement des théologiens libéraux. Ils n'étaient pas des gens qui avaient cette passion pour la Bible. Peut-être qu'ils étaient des bons linguistes, mais ils n'étaient pas des gens qui avaient une passion pour l'écriture. Et ils n'aimaient pas ces arguments, ne cherchaient pas au-dessus de toute chose d'honorer la parole de Dieu. Ainsi, souvent, ils n'ont pas compris le sens et ce n'est pas une bonne traduction, même si ceci est rendu de la bonne manière en anglais. Et cette version était dépassée et une autre maison d'édition l'a rachetée, a changé certaines choses et l'a appelée la ESV. Mais ainsi, la traduction ESV, c'est très proche de la traduction RSV, traduite par des gens libéraux qui n'honore pas le contexte de l'écriture. Ainsi, même si vous trouvez que notre traduction King James est un peu dépassée, elle est bien meilleure. Quel verset extraordinaire que celui-ci. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Il l'a entièrement, toute la plénitude de l'esprit. Au verset 35, le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie. Et j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à la repentance. Il y a à peu près 45 ans, l'un de mes livres, Le docteur de nos âmes, le directeur d'une maison d'édition importante aux États-Unis, voulait le publier dans sa maison d'édition. Et j'étais très intéressée. C'était dans les années 1970. Mais il devait être d'abord relu. Ainsi, il est allé vers deux éditeurs et une autre personne qui était un professeur dans un institut biblique pour relire ce livre. Et on m'a renvoyé un rapport. Ils ont dit « Oh, c'est un bon livre, mais il y a une grande erreur dans ce livre. Ce livre souligne trop la repentance et commet l'erreur de mettre la repentance comme étant une condition pour le salut. » Et ces trois personnes ont rejeté ce livre à cause de cela. Bon, j'espère que je ne donne pas l'impression d'être meilleure que d'autres, mais ils ont rejeté mon livre en disant que la repentance était soulignée de trop dans ce livre. Parce que leur idée, c'est que quand vous venez à Christ, tout ce que vous faites, c'est de croire. Et vous vous repentez, mais dans le sens où vous changez d'avis par rapport à Christ. Quand vous étiez contre lui, maintenant vous êtes pour lui. Vous pensiez qu'il n'était pas important, maintenant vous pensez qu'il est important. Mais vous n'avez pas besoin de vous repentir de vos péchés et d'être honteux par rapport à vos péchés, de les regretter profondément et de fléchir le genou devant Dieu et de vous lamenter pour votre péché, de crier à lui pour le pardon, la repentance du péché. Il pensait que c'était une erreur qui est rajoutée au salut. Il pensait qu'il était simplement important de croire. Il y a beaucoup de gens dans les milieux évangéliques qui croient ceci de nos jours. C'est pour cela que vous entendez dans les évangélisations de foule ou à la télévision ces pasteurs qui ne parlent pas de la repentance. Et si vous ne parlez pas de la repentance, les gens ne seront pas convertis réellement. C'est là le problème du baptême de Jean, ce symbole du baptême. Notre nation a besoin de se repentir, mais ces gens ne comprenaient pas de quoi ils étaient sauvés. Ils n'étaient pas honteux pour leurs péchés. Ils n'ont pas réalisé profondément qu'ils avaient besoin de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et mon péché, parce que je ne peux pas aller dans le ciel, avoir la vie éternelle, si je ne crois pas en lui qui a souffert, qui est mort pour les pécheurs, si je ne lui donne pas ma vie. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Certaines personnes disent, même aujourd'hui, de nos jours, que dans l'évangile de Jean, Jean ne mentionne pas la repentance, qu'il mentionne uniquement la foi. Et il y a quelque chose de vrai en cela, mais ce n'est pas un mystère que les trois autres évangiles sont pleins de repentance et Jean mentionne peu la repentance. Est-ce qu'il a une autre idée, d'autres opinions? Quelle est l'explication pour cela? Constamment, le baptême de Jean, disent-ils, était un baptême de repentance. Il les appelait à la repentance. Constamment, ces versets citent Christ qui appelle à la repentance et le Seigneur ressuscité donne cette instruction pour l'Église qui doit prêcher la repentance, la rémission des péchés. Dans tous les évangiles, nous avons ces versets. Et quand vous arrivez à Jean, ce terme repentance tend à disparaître. Vous connaissez l'explication? La réponse à cette question, vous savez pourquoi? Si vous entendez quelqu'un qui a cette opinion, qui vous dit qu'il n'y a pas de repentance dans l'évangile de Jean. Il y a le langage de la repentance qui est là dans l'évangile de Jean, mais ce terme repentance n'est pas utilisé beaucoup. La réponse est ici, dans ce chapitre même, et vous le voyez ici au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous voyez la perspective de l'évangile de Jean, C'est tous ces gens qui ont été baptisés au début même du ministère de Christ et par le ministère de Jean-Baptiste également, qui n'ont pas réellement cru. Ils se sont repentis sans croire. Et ceci est terrible que de croire sans repentance ou de se repentir sans foi. Vous avez besoin des deux. La doctrine de la repentance, la doctrine de la foi sont là côte à côte. Et Christ est la seule espérance. Il a souffert, il est mort à la croix du calvaire pour porter ma condamnation. Je dépends de lui, je ne peux pas mériter le salut pour moi-même. Je ne peux pas expier mon propre péché, je dépends uniquement de lui. Vous devez croire en lui de tout votre cœur. Mais vous devez également vous repentir. Si vous vous repentez sans croire, cependant, c'est là ce que ces chrétiens de nom ont fait. Ils n'ont pas cru que Christ seul peut purifier du péché et que personnellement, d'une manière personnelle, il a dû souffrir la condamnation à ma place. Si vous croyez réellement, alors vous allez vous repentir. Si vous croyez que vous allez mourir, que vous allez être jugé, condamné, et que seul Christ peut vous sauver, que votre péché est si terrible qu'il a dû venir du ciel sur cette terre pour souffrir, pour mourir dans l'agonie, pour porter la condamnation de votre péché. Si vous croyez en cela, vous allez vous repentir de votre péché. Les deux vont ensemble, côte à côte. Et Jean parle aux foules qui se sont repenties, mais sans comprendre réellement, sans croire réellement. C'est pour cela qu'il souligne la foi, croire. Il utilise le langage de la repentance, mais pas le terme en lui-même. Parce que le fardeau de l'évangile de Jean, c'est pour ces foules. Et j'espère que ceci explique cette différence dans les évangiles. Le temps est passé, nous avons parlé de l'exemple de Jean-Baptiste, que nous puissions être consacrés à Christ comme lui. Il doit croître dans ma vie et je dois diminuer. Si cette semaine vous allez acheter quelque chose de cher, d'important, peut-être une nouvelle voiture, parce que votre ancienne voiture tombe en morceaux, est-ce que vous cherchez peut-être un nouvel appartement, une maison, ou peut-être des nouveaux habits? Combien est-ce que vous allez dépenser? Peut-être des nouveaux meubles ou de nouvelles choses? Je ne peux pas vous dire quoi faire, quelle décision prendre. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes responsable devant lui, mais souvenez-vous, comme un texte clé, ces paroles de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que cette vie, ce n'est pas tout autour de moi, mais c'est lui, Christ, sa gloire et ce que je suis appelé à faire pour lui. Ayez des priorités chrétiennes, un comportement exemplaire comme Jean-Baptiste. Nous voyons Christ, son autorité unique, le Fils de Dieu, et nous avons vu le besoin de se repentir pour le salut. En croyant, les deux vont ensemble, la repentance et la foi.